Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est un drame parfois sous-estimé. L'échec scolaire concernerait au minimum 100 000 élèves chaque année, ceux qui sortent du système scolaire. Une situation très douloureuse pour les enfants, pris dans une spirale de dénigrement et de mésestime de soi. Une situation compliquée aussi pour les parents, souvent bien interdits devant la difficulté de leur progéniture. Halte à la dramatisation semble pourtant répondre en écho mes invités de ce matin. L'échec scolaire se traverse, se dépasse et peut même devenir une force. Explication. L'échec scolaire, un tremplin vers la réussite, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, il y a du monde. Stanislas Morel, vous êtes sociologue, maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université Paris 13, auteur de La médicalisation de l'échec paru aux éditions La Dispute. Avec nous également Nicolas Moncorgé, en charge de ces questions d'échec scolaire pour la direction diocésaine de l'enseignement catholique pour la Haute-Garonne. Marie-Claude Vier, en charge des ateliers Relais Osés pour les apprentis d'Auteuil en Occitanie. Et Félix Cave, étudiant, et Lamia Amimed, maman de Lilia, qui sont là pour témoigner. Stanislas Morel, on va commencer avec vous. Vous êtes donc l'auteur d'un ouvrage paru aux éditions La Dispute, qui a donné lieu à pas mal de presse. À propos de l'échec scolaire, vient tout de suite une question. En tout cas, en préparant l'émission, j'ai eu un peu de mal à y voir clair. Combien d'élèves sont concernés en France? Il y a ce chiffre, 100 000 élèves qui sortent du système scolaire chaque année. Est-ce que vous en avez d'autres? Parce qu'on imagine que là, c'est un extrême.
En fait, l'échec scolaire n'est pas un phénomène que on peut mesurer tout à fait objectivement. Dans tous les cas, il y a besoin de trouver des indicateurs. Bah, l'indicateur que vous avez évoqué, c'est le nombre d'élèves qui sortent du système éducatif sans diplôme. Et c'est l'indicateur qui est retenu au niveau français et européen. Et donc, effectivement, il y aurait autour de 100 000 élèves qui sortent du système éducatif sans diplôme, brevet non compris. Hein, ça, c'est important de le dire. Bon, après, il y a de très nombreuses autres définitions et indicateurs de l'échec scolaire, notamment au niveau des évaluations qui sont réalisées régulièrement en primaire, etc. Mais ce qu'il faut retenir, et votre question est tout à fait légitime, c'est qu'il n'y a aucune définition fixée de l'échec scolaire. Entre un élève en échec et un élève qui ne l'est pas, tout est question de fixer un seuil entre les deux. Et tout ça, c'est arbitraire, et ça dépend, et ça varie en fonction des époques.
Est-ce qu'on peut, du coup, au-delà des 100 000, donner un pourcentage, ça serait quoi 10% des élèves, 5%, ou est-ce qu'en fait c'est impossible à faire comme estimation?
Si on prend l'indicateur, nombre d'élèves sortis du système éducatif sans diplôme, on peut faire un pourcentage par rapport à la population totale et on est autour de 10%, entre 10 et 15% en fonction des années. Donc c'est le pourcentage qui est retenu pour la France.
D'accord, 10% de la tranche d'âge concernée, on imagine.
Oui, ça a baissé, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, on était à 15%, il semblerait qu'on baisse et qu'on se rapproche au niveau de cet indicateur-là, parce que par ailleurs, d'autres indicateurs, notamment ceux issus des enquêtes internationales, montreraient que le niveau des élèves en France n'est pas en train de s'améliorer. Mais par rapport à l'indicateur qui est de mesurer l'échec scolaire en mesurant le nombre d'enfants qui sortent du système éducatif sans diplôme, eh bien, il semblerait que ça baisse.
Stanislas Morel, qu'est-ce qu'on met derrière le mot échec scolaire? Parce que derrière, on peut déjà faire une nuance, semble-t-il, entre échec scolaire et décrochage. Alors, il ne s'agit pas de faire des spéculations un peu jésuites, mais par exemple, phobie scolaire, toutes les dyslexies et autres dys, précocité intellectuelle, hyperactivité. Est-ce qu'on peut essayer de restreindre un peu le champ, ou en fait, est-ce qu'il faut tout embrasser?
Ce que vous sous-entendez, c'est que on pourrait restreindre la catégorie d'élèves en échec scolaire aux élèves qui ont un trouble, parce que toutes les catégories que vous avez utilisées sont des catégories diagnostiques qui désignent des troubles des apprentissages, la phobie scolaire, la dyslexie, la dyspraxie, l'hyperactivité, etc. Mais malheureusement, il y a aussi tout un nombre très important d'élèves, encore beaucoup plus important, qui sont en difficulté scolaire et qui ne présentent aucun tableau clinique où on pourrait identifier un trouble. Donc en fait, l'échec scolaire n'est évidemment pas un phénomène uniquement médical. Mais ce que j'ai pu remarquer dans mes recherches, c'est que, et ce que j'ai essayé d'expliquer dans mes travaux, c'est pourquoi, depuis un certain temps, il y a une multiplication du recours à des explications de type médico-psychologique, celles que vous avez évoquées, phobie scolaire, dyslexie, précocité intellectuelle, etc., pour expliquer l'échec scolaire. Alors qu'avant, on mettait beaucoup plus l'accent, par exemple, sur d'autres facteurs, comme les facteurs sociaux, par exemple.
Alors, si ça ne vous embête pas, avant d'en venir justement au cœur de votre thèse, est-ce que vous pouvez expliquer à quoi ça ressemble probablement que c'est difficile parce qu'il y a de multiples situations, mais un élève qui est en échec scolaire, qu'est-ce qui se passe pour lui, en fait, c'est quoi? C'est l'élève qui est au fond de la classe, qui décroche complètement, qui n'arrive plus du tout à suivre, ou est-ce que c'est celui qui, à dire, qui galère un peu pour être un peu trivial? Comment vous nous le décririez? Que vit-il?
Alors ça, c'est, il y a beaucoup de questions dans les questions que la question que vous posez. Si on essaye de décrire un élève en échec scolaire, c'est quasiment impossible de définir un portrait robot. Vous avez, ce qu'on peut dire, c'est que c'est, si on essaye d'objectiver au maximum la situation d'un élève en échec scolaire, c'est que c'est un élève qui, au niveau d'indicateurs objectifs comme les notes, dans le secondaire, au niveau du lycée, va redoubler, va échouer aux examens. Ça, c'est la réalité objective. Après, la façon dont c'est vécu dans les classes, vous avez l'élève perturbateur qui va, comment dire, mettre en difficulté lui-même et la classe. Vous avez l'élève timide. Vous avez les élèves, comment dire, qui ressentent l'échec scolaire comme une réalité qui s'applique à eux et ceux qui ne le ressentent pas. Ça, c'est très important. Quand on fait des entretiens avec des élèves en échec, on s'aperçoit que beaucoup d'entre eux arrivent à se persuader qu'ils ne sont pas en échec, c'est-à-dire que c'est souvent l'école qui dysfonctionne, qui ne les intéresse pas, que s'ils voulaient, ils y arriveraient. C'est une façon de protéger leur estime de soi, de ne pas admettre le jugement, le verdict scolaire. Donc en fait, si vous voulez, dégager un profil type d'élève en échec scolaire, ça me paraît une réalité.
Bien
Alors on
difficile.
peut. Oui, très difficile. Il y a une variété. Tout enseignant vous dirait que parmi les élèves qu'ils ont en échec scolaire, qu'ils désignent comme étant en échec scolaire, il y a une profusion de profils qui est difficilement réductible à un portrait robot, quoi.
Donc on voit que c'est quand même une vaste nébuleuse, mais à la limite, ce n'est pas forcément le sujet, puisque aujourd'hui on va essayer donc d'aider les auditeurs qui seraient concernés directement ou indirectement à essayer de trouver des pistes. Avant ça et avant de voir comment dire éventuellement ce sujet si on a encore du temps, j'aimerais donc qu'on rentre un peu dans le cœur de la thèse de votre ouvrage. Donc je rappelle son titre, La médicalisation de l'échec scolaire, paru aux éditions La Dispute. Je ne citerai pas le nom d'un autre auteur fort connu parce qu'on a failli l'avoir également en ce début d'émission, donc ça serait pas très courtois, mais pour publicité de ses ouvrages, on trouve dans le Figaro l'échec scolaire ça se soigne, Paris Match échec scolaire ça se soigne on en guérit, voilà, l'échec scolaire serait-il devenu une maladie et est-ce un problème?
Écoutez, tout ça, la réponse doit être nuancée. Qu'il y ait aujourd'hui des spécialistes du soin, des professions médicales, orthophonistes, médecins, psychologues, qui prennent en charge des élèves qui ont des troubles spécifiques des apprentissages, moi, le sociologue que je suis, ne peut pas s'en offusquer. Hein, voilà, c'est pas, je ne remets pas en cause l'existence de dyslexiques, l'existence d'hyperactifs, de surdoués, etc. Bon. Et donc, il est évident que pour certaines familles, l'apparition et la multiplication de ces prises en charge médico-psychologiques a été un plus, c'est-à-dire a apporté des solutions à des difficultés scolaires. C'est pour ça qu'il faut être nuancé. Ceci étant dit, on peut s'interroger sur la multiplication, si vous voulez, ce caractère épidémique du recours à des diagnostics médico-psychologiques. Si vous voulez, quand vous allez dans les classes aujourd'hui, quand vous avez des enseignants qui recourent de plus en plus pour des difficultés qui auparavant auraient relevé d'une aide pédagogique, pardon, donc d'eux-mêmes, hein, une prise en charge à l'intérieur de l'école, de plus en plus, ce sont des diagnostics médico-psychologiques qui donc induisent des recours à des spécialistes du soin, les orthophonistes qui sont passés de 160 dans les années 70 à 20, plus de 23 000, 24 000 aujourd'hui et qui sont complètement débordés. Si vous voulez, les médecins eux-mêmes, les psychologues, les orthophonistes sont submergés par une demande de résolution d'échec scolaire. Et donc c'est à partir de ce moment-là, c'est une question de mesure, c'est-à-dire c'est à partir du moment où cette explication devient un petit peu hégémonique et vient en lieu et place d'autres explications plus pédagogiques que le sociologue que je suis m'interroge. Mais encore une fois, il faut être nuancé. Et d'ailleurs, je ne crois pas que les divergences avec mes collègues cognitivistes, enfin ceux qui travaillent de manière sérieuse, soient nettes sur ce point. Tout le monde est d'accord pour dire que l'échec scolaire doit avant tout avoir des réponses dans le cadre scolaire.
J'ai vu un article que vous avez publié, enfin c'est une interview dans Libération, intitulée revenant sur la question de l'obsession de la performance, qui serait une obsession française. Vous faites écho, entre autres, à une enquête du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Est-ce là aussi, on va dire, peut-être une explication de la place que semble prendre de plus en plus l'échec scolaire? A-t-on en France une obsession de la performance?
Alors, sauf erreur de ma part, je ne crois pas avoir dit que c'était qu'en France, parce que vraiment c'est un mouvement général dans les pays occidentaux et qui nous arrive directement des États-Unis et de l'Angleterre, où cette préoccupation de la performance est chiffrée, hein, et comment dire, est beaucoup plus présente encore qu'en France. Mais il est évident qu'en France, il y a eu ces dernières années une tendance, avec des points positifs, encore une fois, hein, il faut être nuancé, à vouloir dire bon, c'est bien beau de dresser des grands tableaux de l'échec scolaire en rapportant ça à des difficultés sociales, à des inégalités sociales. Je renvoie au très beau livre de Bernard Lahire qui vient de sortir sur la construction des inégalités scolaires dès l'enfance. Donc tout ça, c'est très très bien documenté. Mais une fois qu'on a dit ça, l'idée, c'était de dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment l'école peut s'y prendre pour être efficace. Voilà. Et donc, en fait, il y a eu tout un recentrage sur l'efficacité des pratiques, et avec des études scientifiques, si vous voulez, ça je parle pour le domaine donc que je connais bien, c'est-à-dire les recherches sur l'échec scolaire, de plus en plus se sont centrées sur des recherches expérimentales qui essayent de démontrer quelle méthode est efficace et quelle méthode ne l'est pas. Et si vous voulez, ça peut poser question, parce que ça a tendance à restreindre le périmètre des questions qu'on se pose sur l'école. C'est-à-dire, par exemple, on peut se poser de manière très technique, comment un enfant apprend le plus efficacement à déchiffrer des correspondances graphophonémiques, des rapports entre des, par exemple, des lettres, des sons, etc. Mais cette technicité, elle laisse de côté des grandes questions, sur le sens de l'école, sur ce qu'on veut y apprendre, et ça me paraît plus problématique. Si vous voulez, l'école, c'est un décathlon, il y a plusieurs épreuves, il y a plusieurs dimensions, et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a tendance à restreindre tout à une épreuve, qui serait celle de performance, vous voyez, si vous voulez, donc ça, c'est un petit peu dommage.
Stanislas Morel, est-ce à dire que, en fait, vous dénoncez un peu deux réalités? C'est non seulement la médicalisation, c'est-à-dire le recours de plus en plus systématique à des professionnels extérieurs à l'école, au risque de pas changer soi-même ses pratiques, et puis la multiplication justement des indicateurs ou l'optimisation des techniques pédagogiques, et qui fait qu'à la fin, en fait, l'enseignant fait moins son boulot, pour être un peu cru.
C'est pas qu'il fait moins son boulot, c'est que la focale devient trop rigide, trop précise. L'enseignant, il a un travail, il doit former des élèves à apprendre à lire, mais il doit aussi former de futurs citoyens, il doit aussi former des gens qui ont une estime d'eux-mêmes importante, il doit former des gens qui doivent travailler ensemble, etc., former le collectif, etc. Donc, c'est cet accent qui est mis sur les performances dans des habiletés cognitives, dans des habiletés d'apprentissage, qui me semble aujourd'hui trop importante. Et du côté de la médicalisation, si vous voulez, pour résumer, il me semble que effectivement le problème, c'est quand cette interprétation devient un petit peu hégémonique, et dans certains contextes elle tend à le devenir, constat qui est partagé non seulement par les sociologues mais aussi par les spécialistes du soin, qui d'ailleurs me demandent d'intervenir dans leur congrès pour voir avec eux comment ils pourraient faire pour restreindre la demande des PAMI, des enseignants qui leur est adressée en termes de résolution de l'échec scolaire. Les médecins n'ont pas envie de se transformer en des spécialistes de l'échec scolaire. Enfin, ils n'ont pas envie de faire des soutiens scolaires, par exemple.
Stanislas Morel, dernière question. Je précise juste donc que chaque année maintenant est organisée depuis 2008 une journée du refus de l'échec scolaire. Il y a beaucoup de journées comme ça, mais en même temps c'est important. Là, c'était le 25 septembre dernier, c'était sa 12e édition, donc sur le thème de l'accompagnement. Vous avez parlé des inégalités. J'ai cru comprendre en préparant l'émission qu'en fait la grande réalité qui se cacherait derrière l'échec scolaire, ça serait d'abord des inégalités sociales et culturelles. Est-ce vrai?
Bah écoutez, ça c'est un fait hein, qui est admis par tout le monde. Hein. Si on regarde comment se distribue l'échec scolaire dans la société, eh bien c'est une évidence statistique que ce sont avant tout les élèves issus de milieux défavorisés qui quittent le collège sans diplôme, qui ont les moins bonnes performances aux évaluations. Donc, si vous voulez, il est admis par tout le monde que les causes, le principal facteur explicatif de l'échec scolaire, se situe dans ces inégalités sociales. Alors, il ne faut pas dire que c'est nécessairement des manques, que les enfants des classes populaires n'auraient pas certaines de l'intelligence, qu'ils auraient un handicap socioculturel. Il faut plutôt dire que l'école n'arrive pas à s'adapter aux façons au rapport à la culture, au rapport au savoir des enfants des classes populaires, ce qui n'est pas exactement pareil. Hein. Voilà, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de handicap. Il y a un système scolaire français qui a du mal à répondre aux façons d'apprendre des élèves des classes populaires.
Eh bien, merci beaucoup Stanislas Morel pour cette mise au point en début d'émission. Je rappelle le titre de votre livre, La médicalisation de l'échec scolaire, paru aux éditions La Dispute. On va faire une première pause et puis on retrouve nos autres invités à qui j'ai oublié de dire bonjour. Je me rends compte maintenant. On prendra donc bien le temps de vous accueillir et de vous donner la parole pour cette émission, L'échec scolaire, un tremplin vers la réussite.
Thank you.
Capella.
L'échec scolaire, un tremplin vers la réussite, c'est pour rappel donc le thème de l'émission de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient, nous étions au début de l'émission avec Stanislas Morel, auteur de « La médicalisation de l'échec » paru aux éditions La Dispute. Autour du plateau, Nicolas Moncorgé en charge des questions, entre autres d'échecs scolaires, donc pour la direction de diocésaine de l'enseignement catholique pour la Haute-Garonne, mais aussi pour l'Ariège et le Tarn-et-Garonne. Marie-Claude Vier, vous êtes en charge des ateliers de l'atelier pardon, Relais Osé pour les apprentis d'Auteuil. Dans le sud-ouest, Félix K, vous êtes jeune pro et non pas étudiant. Et Lamia Amimed, vous êtes la maman de Lilia, scolarisée donc au cours Les Constellations. On en parlera à la fin de l'émission. D'abord, avant qu'on profite du temps que l'on a pour essayer de voir ce que vos institutions, les institutions que vous représentez proposent pour essayer de lutter contre l'échec scolaire, qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction? On a laissé largement la parole à Stanislas Morel, Marie-Claude Vier. Est-ce que vous avez des choses qui ont fait tilt dans les pros? Est-ce qu'il y a des choses qui ont fait tilt dans les propos de Stanislas Morel?
Oui, tout à fait. Donc, concernant la multiplicité des causes et des motifs qui vont conduire à l'échec scolaire, il est effectivement difficilement qualifiable. Par contre, je pense qu'il faut, dès le plus jeune âge, faire la différence entre une difficulté qui peut être passagère et accompagnée et éventuellement rééduquée, et l'échec scolaire qui peut conduire au décrochage scolaire. Donc moi, je mettrais plutôt des nuances dans cette difficulté que peut rencontrer tout à chacun.
Et sur sa grande thèse qui est aujourd'hui médicalisation de la difficulté et puis un peu course à la performance.
Alors, on a la chance d'avoir de bons professionnels autour de nous. Bon, j'ai l'occasion aussi de travailler dans une école maternelle et primaire et je fais appel à ces professionnels. Néanmoins, les difficultés que rencontrent les jeunes concernent surtout l'enseignant. Il a besoin d'un regard, il a besoin d'un diagnostic pour pouvoir avancer dans la prise en charge de certains jeunes. Oui, effectivement, il y a une croissance qui est importante. Pour autant, les professionnels auxquels on fait appel pour accompagner ces jeunes apportent un regard important. Je ne pense pas que ce soit...
Il n'y a pas d'inflation démesurée.
Alors, il y a une inflation, mais elle répond à une demande. Alors, ça peut être effectivement une inquiétude qui est croissante dans les familles, chez les enseignants, lorsque l'objectif n'est pas atteint rapidement. Peut-être qu'on ne donne pas assez de temps aux enfants qu'on accompagne. Mais voilà, ce regard, il est quand même intéressant pour moi.
Nicolas Moncorgé, rapidement, une réaction. Est-ce que les parents sont de plus en plus stressés ou trop stressés quant aux résultats de leurs enfants, ne serait-ce que cela?
Oui, moi je pense qu'effectivement les parents, parce que la société met quand même une pression sur les performances scolaires, ont tendance à demander beaucoup à leurs enfants, et s'ils n'y arrivent pas, ça devient problématique et pour la famille, mais surtout pour l'enfant. Et ça peut être très anxiogène et le bloquer un peu dans ses apprentissages. Moi je voudrais revenir sur ce que disait Monsieur Morel concernant l'approche technique justement des performances ou non-performances. Il a évoqué la question du sens de l'école. Et moi qui accompagne, dans le cadre de ma mission, des collégiens et lycéens, je dirais que ce qui est souvent bloquant pour un jeune, un adolescent, c'est qu'il ne donne pas sens.
Il se demande ce qu'il fait là, c'est ça ?
Voilà, il se demande ce qu'il fait là et pourquoi en fait. Parce qu'il n'a pas construit un projet qui a été validé, professionnel, personnel aussi parfois. Et donc, ça peut être très bloquant. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus faire des choses sans comprendre pourquoi ils les font.
Marie-Claude Vier, on va commencer par un coup de zoom sur ce qui se passe donc, du côté des apprentis d'Auteuil et dans ces ateliers Relais Osé, ou dans cet atelier Relais Osé. Qu'est-ce que vous faites pour ceux qui décrochent? En l'occurrence, c'est plutôt donc, des collégiens et des lycéens. Et qu'est-ce que c'est que cette formule Relais Osé?
Alors l'atelier Relais Osé, qui est situé à Minim, accueille de jeunes collégiens et qui a pour mission de prévenir le décrochage scolaire. Alors en réalité, on peut accueillir des jeunes qui ont déjà décroché, mais en fait toute la mission consiste à prévenir. Alors concrètement, on va accueillir sur l'année scolaire environ 80 jeunes qui vont être répartis sur l'année par module. Et donc, chaque module accueillera 12 à 14 jeunes pendant 4 semaines. Pendant ces 4 semaines, on va bâtir un projet personnalisé du jeune en associant vraiment nécessairement la famille et le collège d'origine. Il n'est pas question de travailler avec un jeune sur la prévention ou sur le décrochage si la famille n'est pas partie prenante.
Alors juste, comment vous les choisissez? C'est quand même des jeunes qui commencent à décrocher, on imagine
ou... Oui, alors en fait, ils sont essentiellement adressés par les collèges d'origine qui ont repéré alors, tout un tas de facteurs. Un absentéisme important, un jeune qui peut être addict aux jeux vidéo, qui se couche tard, un jeune qui a des troubles d'apprentissage qui n'ont pas été rééduqués. Du coup, il a du mal à se concentrer, à se positionner, à lire, à comprendre un texte. Ça peut être aussi un jeune qui a un trouble du comportement qui va gêner la classe, donc il est dans une spirale d'exclusion par rapport à sa classe. Voilà, les facteurs sont multiples.
Alors, qu'est-ce que vous faites avec eux? Donc, ils viennent de différents établissements, oui. Mais pendant un mois, ils sont ensemble.
Alors, on va les accueillir tous ensemble pendant 4 semaines. Ils commencent ensemble. On a vu toutes les familles, moi, j'ai reçu toutes les familles et tous les jeunes pendant environ 1 heure. On va leur proposer de la remédiation scolaire, essentiellement le matin. Tous les matins, ils sont en cours.
C'est quoi de la remédiation scolaire?
Alors, on va reprendre les bases en mathématiques, en français. On va voir les points qui accrochent et qui empêchent de progresser, éventuellement revenir en arrière. Donc ça, c'est le rôle des deux professeurs qui travaillent à l'atelier relais. Il y en a un qui est sur les matières scientifiques, l'autre sur les matières littéraires. Et puis, autour de cet accompagnement, il y aura des activités sportives, des activités artistiques, des activités culinaires, des activités musicales aussi, enfin artistiques.
Qui les accompagne donc? Vous me disiez en préparant l'émission, il y a un prof pour les parties, on va dire, mathématiques, littéraires.
Oui, alors il y a deux professeurs, un éducateur spécialisé qui s'occupe de toutes les compétences sociales qui sont mises à mal par l'échec scolaire. Nous avons des bénévoles qui s'occupent des activités artistiques. Et puis, on travaille avec des associations toulousaines pour les activités sportives.
Et alors, rappelez le ratio, c'est donc c'est 3 encadrants pour combien d'élèves?
Alors, en permanence, il y a 4 encadrants au moins, voire 5, pour 12 élèves.
Pour 12
donc,
élèves.
Deux professeurs qui sont là toute la semaine. Ils ne se contentent pas de venir faire les cours et de repartir après leur propre cours. Ils sont présents pendant toute la prise en charge du jeune, du matin jusqu'à 4 heures le soir.
Et vous avez, je sais pas, vous pouvez chiffrer là, c'est pas, vous voyez, c'est la même maladie que dans le milieu scolaire, mais est-ce que vous avez des retours sur les résultats?
Alors oui, on a des retours parce qu'en fait, moi, je distribue à chaque élève, chaque parent, chaque établissement scolaire une enquête de satisfaction. Alors les gens qui nous retournent cette enquête de satisfaction sont globalement satisfaits de notre travail, mais on a les retours des collèges qui sont quasiment, voilà, qui arrivent de manière systématique. Oui, on a au minimum, un apaisement du jeune. Et quand on a le minimum que j'appelle la relation avec la famille qui est reconstruite, quand un parent, le jour du bilan, me dit « on a réussi à renouer le dialogue », c'est déjà la première petite victoire. Après, on a des jeunes qui se réinsèrent durablement dans leur collège, qui vont aller vers leur parcours pro. Il y en a qui peuvent suivre un parcours professionnel qui sera plus adapté parce qu'on a aussi aidé au diagnostic, aider au projet professionnel, donc ça ce sont des réussites, et puis on a des jeunes qui vont venir peut-être 2 ou 3 fois dans la scolarité au cours de leur collège.
Nicolas Moncorgé, vous me disiez en préparant l'émission qu'il y avait 3 niveaux d'action, prévention, intervention, remédiation. Expliquez-nous ce triptyque.
Alors prévention, ça va être dans le cadre de l'établissement. Donc les équipes d'enseignants et d'éducateurs vont essayer de repérer au plus tôt des jeunes qui seraient en difficulté scolaire, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont être en décrochage scolaire, c'est savoir pourquoi il y a des difficultés et essayer de mettre en œuvre des actions dans le cadre de la scolarité pour essayer de remédier à ces difficultés.
Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait que chaque enseignant est formé particulièrement sur ces sujets ou il suffit simplement d'un peu de bon sens et de veiller au grain, si je puis me permettre
Il faut les deux, il faut du bon sens pour essayer. Bon, déjà, il y a des outils pour repérer, justement, ça peut être au niveau des absences, ça peut être au niveau des résultats qui chutent, par exemple. Ça peut être aussi des problèmes d'intégration de comportement dans la classe. Si ça perdure, ça peut être un élément qui donne un signal.
Mais ma question était plus précise, c'est-à-dire, est-ce que vous travaillez à former au sein de l'enseignement catholique les enseignants, à les sensibiliser ce sujet et du coup à...
Ce que j'essaie de mettre en place, ce sont des formations soit sur plusieurs établissements, soit dans les établissements, pour que les équipes fabriquent leurs propres outils, justement avec les items qui vont leur permettre de repérer ces jeunes qui seront en difficulté assez tôt dans l'année, par exemple, au mois d'octobre, peut-être même avant, repérer des jeunes qui sont en difficulté, qui perdurent. Hein. C'est surtout ça qu'il faut essayer de voir.
Alors ça, c'est l'aspect prévention. Et après, donc, intervention, remédiation, expliquez-nous un peu la différence.
Alors, intervention, c'est quand le jeune est en pré-décrochage, on peut faire intervenir des personnes extérieures, éventuellement, dans l'établissement, des associations, via des dispositifs particuliers, ou par exemple, je pensais à la classe en entreprise, là c'est un dispositif qui est sur l'année, mais pour un établissement où une entreprise virtuelle va être créée dans l'établissement. Là, vous avez des parrains.
Ça ressemble à quoi, juste, une entreprise virtuelle? Donc là, c'est pour collégiens ou lycéens, c'est ça?
C'est pour collégiens et lycéens, mais plutôt collégiens quand même. Donc, c'est une classe qui va créer de toute pièce une entreprise, donc définir un produit ou un service. D'abord, il va falloir organiser ensuite l'entreprise avec les différents services, ressources humaines, administratives, vente, production.
Alors toute la classe est concernée ou juste ceux qui décrochent ?
Non, ça peut être des classes entières qui sont concernées. Il y a des associations, donc, entre autres celle qui s'appelle Entreprendre pour apprendre, donc qui va coacher ces classes-là avec des intervenants, un planning très détaillé de leurs interventions et un parrain qui va suivre le projet du début à la fin de l'année.
Quel est l'intérêt, là, en l'occurrence? C'est quoi? C'est pour s'approprier davantage ce qui est vécu à l'intérieur de la classe?
Ça donne du sens aux apprentissages pour certains élèves, parce qu'on est sur du concret. C'est eux qui sont acteurs, en fait, hein, de ce projet. Ils sont guidés, mais ils sont acteurs. Donc, ça donne du sens. Et ensuite, vous avez des personnes extérieures, à savoir, ce sont des entrepreneurs, les parrains, la plupart du temps. Ça peut être de grosses entreprises ou pas, qui viennent donner du temps et partager leur expérience, et puis aussi guider, interroger le projet, si ce produit-là, comment le vendre, comment le fabriquer, à qui, pourquoi.
Alors vous avez aussi donc un projet hors les murs qui ressemble un petit peu à, qui est un séjour de rupture si j'ai bien compris, peut-être qu'on y reviendra un peu après. J'aimerais juste qu'on essaie de s'adresser aux parents qui ont des enfants dans le primaire qui sont concernés. Là on imagine que les classes entreprises, les séjours de rupture ou on va dire les formats relais osés s'appliquent moins. Marie-Claude Vier, vous êtes par ailleurs donc directrice d'école. Que dire aux parents qui sont concernés dans le primaire? Il faut quoi? Tout simplement avoir la simplicité d'aller voir le chef d'établissement, l'enseignant, et puis se réunir autour d'une table et travailler à une solution?
Oui, alors il est essentiel que l'enseignant repère très vite, et en fait ce qui va faciliter le travail des enseignants du primaire par rapport au décrochage, c'est la proximité de relation qu'il peut y avoir entre la famille et l'enseignant. Donc l'enseignant connaît parfaitement l'enfant au bout de quelques mois. Elle peut proposer des diagnostics, des bilans, elle va accompagner. Le chef d'établissement est là pour veiller à cet accompagnement, il y a tout un tas de dispositifs. Et puis la rencontre et la nécessité de faire alliance entre la famille et l'école dès les premières années d'école. Et pour moi, le décrochage scolaire en primaire, il est vraiment rarissime dans la mesure où les équipes vont être vraiment présentes et vont accompagner. Ce qu'il est important de faire, c'est d'avoir une continuité dans cette prise en charge avec les enfants. Après, il arrive que dans certaines situations extrêmes, il y ait un absentéisme important. Mais là, c'est le rôle du chef d'établissement d'aller interpeller la famille.
Ce qui est un petit peu déroutant quand on se penche sur l'échec scolaire, que je connais évidemment beaucoup moins que vous, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas, voilà, y a pas de grande méthodologie, il y a beaucoup de bon sens et puis de l'attention.
Multiplicité des réponses. Hein. Donc certains collèges vont travailler plutôt avec nous parce que nous, on a un dispositif qui agit plutôt sur du court terme, 4 semaines. Et nous, on a pris la décision de travailler de manière à couper le jeune de son milieu d'origine et du collège. D'autres dispositifs travaillent de manière plus étroite avec les collèges puisque le jeune y retourne une fois par semaine. Il y a des dispositifs hors les murs. Je crois que chacun doit trouver au milieu du panel de propositions ce qui correspond mieux aux difficultés du jeune, aux attentes de la famille.
Avant qu'on fasse une deuxième pause, je voudrais que vous posiez une question donc, sur le sens de l'école. Vous en parliez, Nicolas Moncorgé. Est-ce que, par exemple, donc, aux apprentis d'Auteuil ou dans toutes les situations que vous retrouvez dans l'enseignement catholique, donc, c'est de fait la question de fond et comment on essaye d'y répondre à cela ? C'est pas facile quand même d'arriver à faire en sorte que l'école ait du sens.
Alors, je dirais, en école maternelle ou en école primaire, le sens, c'est d'abord le plaisir. Le plaisir de venir, le plaisir d'apprendre, le plaisir de rencontrer des personnes bienveillantes. Le plaisir d'une école qui offre plein de possibilités d'apprendre.
Le plaisir de faire plaisir à ses parents ou à sa maîtresse aussi.
Exactement. Ça, c'est tout part de la relation et de vivre avec ses camarades. Un enfant qui n'est pas bien dans son groupe classe, il peut développer aussi, pas un échec scolaire, mais enfin, en tous les cas, une réticence à venir.
Même s'il est très intelligent, voilà, voire brillant.
S'il a tout ce qu'il faut à la maison.
Donc la question du sens ne pose pas pour le primaire, mais non. Alors après, comment on infuse du sens
au niveau du collège?
Oui.
Alors le collège,
vaste
c'est quand
question,
même...
Mais...
Ouais, c'est là, c'est pour ça qu'on a une croissance du niveau de décrochage scolaire, c'est que le collège, avec le saucissonnage des cours, avec le manque de cohésion parfois dans les équipes au niveau des collèges, même si la plupart des collèges font un travail vraiment extraordinaire.
Avec l'immaturité de l'enfant aussi.
Voilà,
de l'adolescent, pardon.
Et puis effectivement, les caractéristiques de l'adolescence qui va rejeter forcément un modèle. Et puis le modèle qui perdure depuis quand même plusieurs décennies, qui n'évolue pas toujours, avec des jeunes qui sont soumis à tout un tas de contraintes et de sollicitations.
Et donc c'est une réponse un peu impossible
Oui,
que l'école ait du sens.
Alors l'école, elle y travaille et elle avance beaucoup par rapport à ça. Donc c'est proposer des projets, comme me décrivait Nicolas à l'instant, qui soient ouverts sur le monde, apporter de l'intérêt, sortir de la classe à un moment donné, créer ensemble, permettre aux enfants de bouger, avoir des classes flexibles. Et permettre de construire ensemble, puisqu'aujourd'hui, il va falloir qu'on apprenne aux jeunes à travailler ensemble, beaucoup plus qu'individuellement. Ça, c'est l'enjeu des prochaines décennies pour le collège.
Nicolas Moncorgé, souvent on dit dans les entreprises ou dans n'importe quel groupe, il faut travailler à donner une vision pour que chacun ait en tête en fait, l'horizon que l'on poursuit. Et après, du coup, c'est ce qui entraîne tout le monde. Est-ce que dans le fond, c'est ce que l'école aussi doit apprendre à construire avec les élèves? Est-ce que c'est ce que vous essayez de faire avec tous ces dispositifs, projet hors les murs, pas à pas, etc.?
Alors donner une vision, oui, c'est important pour un jeune. Alors je crois qu'il y a deux degrés de vision. Il y a ce que le jeune voit à assez court terme, parce qu'ils ont du mal à se projeter, donc ils voient la semaine, bien souvent. Au-delà d'une semaine, c'est compliqué, ou ça leur fait peur. Ce premier degré, je dirais, on peut les accompagner. Par exemple, il y a du tutorat. Et le tutorat, pour un jeune qui a des difficultés scolaires, consiste à essayer d'analyser pourquoi la semaine précédente, il était en échec scolaire sur telle matière.
Ah, l'échec scolaire se gère à la semaine.
Non, mais le tutorat, c'est un dispositif d'accompagnement interne à l'établissement. C'est un adulte avec un jeune. On essaie de reprendre justement ce qui n'allait pas, très spécifiquement. Et le jeune va essayer de se fixer un objectif pour la semaine suivante. Et on va travailler sur quels moyens il peut se donner pour apprendre son cours d'économie, par exemple. Voilà. Et c'est très pratique. C'est noté, c'est signé. Et la semaine suivante, on le reprend et on voit si ça fonctionnait ou pas, on questionne. Ça, c'est la première vision pour qu'il soit en réussite assez rapidement. La seconde vision, ça va être effectivement, comment je vais être acteur aujourd'hui pour ma vie de demain, en fait, voyez. Et ça, c'est très difficile pour certains jeunes de se positionner et de voir qu'aujourd'hui, les actions qu'ils posent, en fait... En termes d'investissement dans leur travail, en termes de recherche de métiers qu'ils voudraient faire, c'est pas simple en fait. Bon, il faut les accompagner.
On va faire une deuxième pause et puis on va rentrer on va laisser témoigner nos deux autres invités, Félix et Lamia Amimed, Félix Cave, et puis ça soulèvera d'autres questions, peut-être d'autres suggestions, et vous pourrez continuer à préciser quelques-uns des dispositifs ou des choses que vous mettez en place dans les institutions que vous représentez. Thank you.
Radio Présence à Pamiers 100.2. Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'échec scolaire, un tremplin vers la réussite, point d'interrogation. C'est pour rappel donc le thème de l'émission de ce matin. On était au début de l'émission avec Stanislas Morel, auteur de La médicalisation de l'échec aux éditions La Dispute, autour du plateau Nicolas Moncorgé pour l'enseignement catholique, Marie-Claude Vier pour les apprentis d'Auteuil, Félix Cave, jeune professionnel, et Lamia Amimed, maman de Lilia, qui va donc nous raconter un petit peu ce qu'elle a vécu. Alors Félix Cave, vous, merci d'avoir été aussi patient d'abord. Vous êtes aujourd'hui jeune pro, vous travaillez dans la restauration, on ne donnera pas le nom du restaurant où vous travaillez. Vous avez eu des années compliquées, pourtant vous étiez un élève sans difficulté, je ne sais pas si vous étiez brillant ou pas, mais un élève sans difficulté. Et puis à la fin de la troisième, vous m'avez dit que vous aviez commencé à décrocher. Ça ressemble à quoi un décrochage? Essayez de faire un peu un zoom arrière et nous dire comment vous étiez sur les bancs du lycée. Qu'est-ce qui se passait un peu?
En fait, un décrochage, ça passe avant tout, en tout cas pour ma part, ça a commencé par des problèmes de comportement, au niveau de l'attitude avec mes camarades, au niveau de l'attitude avec mes professeurs. Je pouvais très bien être très gentil et très poli, comme je pouvais être très 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 insolent, et en fait au niveau de l'évolution scolaire, j'ai décroché à partir de la troisième, et mon lycée était...
Ça veut dire quoi, décrocher? Vous arrêtiez, vous ne veniez plus en cours?
Ouais, voilà, j'étais absent, je faisais pas mes devoirs, je révisais pas pour les interrogations, j'étais pas mal absent aussi. J'ai redoublé ma première, donc je pensais redoubler pour que ce soit bénéfique, mais ça l'a pas été. Et j'ai arrivé en fin de lycée, j'ai même pas eu le courage et la motivation, la détermination d'obtenir mon baccalauréat.
Comment vous le viviez? C'est-à-dire, on imagine, ça doit quand même pas être simple de passer 3 ans, si c'est pas 4, donc au lycée.
Bah, c'est compliqué parce que dans un premier temps, déjà moi je m'y plaisais pas au niveau de l'environnement, mais au niveau plutôt des cours, des professeurs. J'avais du mal à rentrer dans cet univers-là. Et puis à côté, il y a toujours un peu une pression familiale, parce que nos parents, ils sont constamment derrière nous. Ils sont limite peut-être un petit peu plus stressés que nous pour les examens, pour les contrôles qui sont réguliers. Et voilà, à partir de la troisième, jusqu'en terminale, j'avais littéralement toujours mon papa qui était derrière pour me faire faire mes devoirs, pour essayer de me sortir un peu de ça, mais bon, ça reste compliqué, quoi.
Alors Félix, vous, ce qui vous a aidé, donc c'est un séjour de rupture. Vous êtes parti donc avec votre chef d'établissement et CPE, c'est ça?
Oui.
Donc vous avez eu un séjour de rupture à la dure. Est-ce que vous pouvez nous le décrire rapidement, et puis surtout nous dire en fait ce qui a changé? Enfin, qu'est-ce que vous avez appris à l'occasion de ce séjour de rupture?
Alors dans un premier temps, pour décrire un peu ce séjour de rupture, on nous emmène dans un endroit qu'on ne connaît pas, et du coup c'est un séjour scolaire mais hors les murs, puisqu'on reste quand même dans le cadre de l'école, et on nous impose entre guillemets un rythme de vie différent de ce que l'on peut vivre au quotidien quand on se lève à 8h pour aller à l'école, que le soir on rentre, on fait les devoirs, qu'on mange avec les parents.
Donc là, à quoi ça ressemblait là?
En fait, on dormait dans des granges déjà. C'était l'hiver et il faisait très très froid. Il y avait de la neige. Ensuite, nos journées, elles étaient remplies par du travail manuel, donc du désherbage. On débroussaillait, on coupait du bois, on entretenait le terrain dans lequel on vivait. Et puis après, voilà, c'était des tâches quotidiennes et des tâches groupées, donc préparer les repas. Le soir, on avait quelques exercices à faire aussi, puisqu'on restait quand même dans le cadre scolaire.
Alors, qu'est-ce qui vous a autant... parce que quand vous m'en avez parlé, vous en gardez un excellent souvenir. Preuve que c'est pas la température et les conditions
non,
de couchage qui comptent. Mais surtout, que, rétrospectivement, qu'est-ce que vous avez appris? C'est quoi? C'est votre regard sur les éducateurs qui a changé? Alors, c'est que vous avez appris la valeur des choses?
Déjà, oui. Le regard sur les éducateurs, il change puisqu'on apprend à les connaître... En tant qu'humain, en tant que personne, et pas en tant que personne administrative. Donc ça, c'est déjà un privilège. Et ensuite, on apprend aussi énormément la valeur des choses, parce que voilà, genre pendant une semaine, j'ai pas eu la possibilité de prendre une douche, j'avais pas la possibilité de spécialement de pouvoir me brosser les dents. C'est vraiment des choses en fait qui sont super importantes. C'est des choses qu'on savoure quand on revient à la normale. Les repas aussi, les repas sont. Moi, j'ai plutôt été difficile niveau nourriture. Par exemple, je peux vous donner un exemple qui m'a énormément marqué, c'est la choucroute. Je déteste la choucroute. et pendant ce séjour, on n'avait que ça à manger un soir. Donc après une journée comme on faisait, j'étais obligé de la manger quoi. Et je l'ai vraiment apprécié.
Voilà, ce qu'on entend donc derrière, c'est que surtout vous avez découvert donc la valeur des choses. Ça paraît fou que ça puisse tenir qu'à ça, mais bon, y a certainement bien d'autres choses à découvrir. Derrière, vous êtes lancé dans des études de photographie aussi, et là vous y avez trouvé donc un peu une planche de salut, parce que enfin les études avaient du sens. Je vois le temps qui passe, alors on va passer à Madame Amimed pour parler donc de votre fille Lilia. Votre fille est beaucoup plus jeune puisqu'elle est en primaire. À partir du CP, elle a commencé à avoir des difficultés. Décrivez-nous en fait quelles étaient ses difficultés et quelle était sa souffrance, Madame Amimed.
Alors la difficulté de Lilia, c'était qu'elle n'arrivait pas à lire, elle ne reconnaissait pas les lettres, les chiffres. Donc j'en avais parlé avec sa maîtresse. Il y a eu la réunion d'une équipe éducative avec une psychologue, sa maîtresse, le chef d'établissement. Et son orthophoniste, parce qu'elle faisait des cours d'orthophonie pour l'aider à reconnaître les lettres et les chiffres.
Alors vous, la grande difficulté que vous avez eue, en tout cas ce que je trouve intéressant à souligner, c'est que peut-être contrairement à tout ce qu'on a entendu, non pas pour infirmer les propos des autres invités, mais vous aviez comme honte, vous ne saviez pas trop vers qui vous tourner, vous aviez l'impression que les parents qui étaient concernés, ils se cachaient. Expliquez-nous ça.
Oui, effectivement, j'ai essayé d'en parler autour de moi, avec les parents d'élèves de la même classe que ma fille, et on n'osait pas en parler, même s'ils avaient des difficultés, même si ma fille me disait qu'eux aussi, ils avaient des problèmes. Les parents avaient vraiment, vraiment du mal à discuter de ce sujet. C'était une honte, il ne fallait pas en parler, il ne fallait pas... C'est vraiment se sentir exclu.
Pourtant, avoir des difficultés au CP, c'est quand même pas la fin du monde.
Non, c'est pas la fin du monde. Mais pour les parents, oui, c'est une honte. C'est une honte. On ne peut pas en parler. C'est comme ça.
Alors vous, qu'est-ce qui vous a aidé, Madame Amimed? Quel a été le déclic, la main tendue ou la proposition qui vous a aidé à sortir la tête de l'eau ainsi que Lilia?
Alors le déclic, ça a été ma voisine. Une voisine qui avait son fils en classe de CP au cours Les Constellations. Donc,
Les Constellations, c'est donc, je le dis juste en un mot, c'est donc des écoles, en l'occurrence à Toulouse, une école qui fait partie du réseau Espérance Banlieue, donc des écoles, on va dire, sur un format un peu particulier qui s'adresse surtout aux enfants qui viennent de ces lieux-là.
Oui, effectivement. Donc, son fils s'épanouit, il s'est très bien dans cette école et on nous a proposé de faire un stage pendant les vacances de Noël. Donc, elle a fait trois demi-journées dans cette école et au bout de la deuxième demi-journée, elle a voulu changer d'école. Ça lui plaisait tellement qu'elle a voulu en changer. D'ailleurs, pour ce stage, il nous proposait de faire les devoirs avec les enfants. Donc ma fille est arrivée le matin avec ses devoirs, elle avait 20 pages de maths à faire et la maîtresse lui a dit non, c'est pas possible, on pourra pas faire ça, mais ne t'inquiète pas, parce qu'elle était très triste par rapport à ça, et elle lui a dit ne t'inquiète pas, on va essayer de s'en sortir et tu vas y arriver. Et petit à petit, en fait, elle a changé d'école. On l'a annoncé à l'orthophoniste qui n'était pas trop d'accord parce qu'elle allait changer d'établissement. Elle avait peur.
En cours d'année.
Voilà, en cours d'année, parce qu'elle l'a changé, on a changé en février. Et du coup, depuis...
Alors, qu'est-ce qui a été bénéfique, là ? C'est juste le fait de changer d'établissement ? C'est que, du coup, en fait, il y a un nouvel enseignant, il y a un nouveau regard, il y a un nouveau départ, etc. Ou est-ce que c'est que vous avez trouvé qu'il y avait, je veux dire, des astuces ou une intelligence pédagogique différente ?
Effectivement, il y a eu ça, le changement d'établissement. Et après, avec ce nouveau établissement, ils sont moins nombreux en classe. Et le fait qu'ils l'apprennent en personne entière, qu'elles soient pas fondues dans un groupe ou s'ils sont bien, s'ils sont excellents, c'est tous ensemble, ou s'ils sont en dehors du système, c'est tous ensemble. Là, ils l'ont vraiment prise. Il faut savoir aussi que ma fille avait vraiment perdu confiance en elle. Elle avait plus du tout confiance en elle.
Elle avait développé même une phobie scolaire. Vous m'expliquez que vous passiez un quart d'heure devant l'école, elle a persuadé de rentrer.
Oui, elle pleurait le matin, elle ne voulait pas aller à l'école. Et depuis qu'elle est dans cette école, le matin, elle est très contente d'y aller. En quelques semaines, elle a appris à lire, à compter.
Et aujourd'hui, elle veut même dormir à l'école.
Alors,
qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette école, vous diriez, alors, s'agit pas, enfin, ce sont des belles écoles, hein, mais il n'y a pas que les écoles Espérance Banlieue qui sont des belles écoles. Mais est-ce que vous avez repéré quelques points, justement, de la pédagogie qui pour vous ont été enfin suscitent votre admiration et que votre fille apprécie particulièrement?
Alors, on a des comptes rendus souvent avant les vacances sur ce qu'ils font en classe et des difficultés, des progrès de nos enfants. Leur technique, c'est plutôt de faire des activités avec les enfants, mais d'en changer au bout de 20 minutes parce que l'attention, la méthode pédagogique qu'ils utilisent leur stipule qu'au bout de 20 minutes, il faut changer d'activité pour que l'enfant soit toujours intéressé à ce qu'on fait en classe. Et depuis, ma fille, elle adore l'école. Elle adore aller à l'école.
L'attention est un peu disparue.
Oui.
Alors, Marie-Claude, avec le micro, c'est mieux. Marie-Claude Vier, peut-être le mot de la fin. Ce qu'on peut retenir de ces deux témoignages, probablement un peu trop court, c'est que ça se passe mieux quand il y a du sur-mesure, quand la relation est forte entre les enseignants, les parents, l'élève. Mais dans le fond, ça demande un investissement considérable, non ?
Oui, alors ce que je retiens des deux témoignages, c'est vraiment la notion de rupture. À un moment donné, il faut casser quelque chose. Il y a un engrenage qui n'est pas porteur. Et parfois, c'est suffisant. Ça peut être thérapeutique, comme dans la protection de l'enfance. On peut avoir un placement pour un enfant et il est thérapeutique. Cette situation, les deux exemples sont très concrets. Et
voilà, la solution, c'est la rupture.
La rupture et après, vraiment, le travail d'alliance.
Je disais, c'est un investissement considérable aussi.
Voilà,
c'est...
l'investissement et la relation. Et tous deux ont parlé de la relation, de la rencontre qu'ils ont pu faire avec des personnes qui sont bienveillantes. Il y en a partout, des personnes bienveillantes. Mais à un moment donné, le courant ne passe pas et cette rupture a permis ces rencontres. Et la rencontre, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire pour prévenir le décrochage scolaire et pour accompagner ce décrochage.
Allez, Félix Cave, le mot de la fin. Vous disiez que votre CPE, même, vous l'appeliez maintenant pour prendre de ses nouvelles, c'est ça ?
Ouais, tout à fait. Ça fait déjà 3 ans que j'ai quitté le lycée et je le vois toujours, je l'appelle régulièrement. Typiquement, hier, voilà, je l'ai appelé pour prendre des nouvelles de lui pendant sa retraite. Donc...
Voilà, donc bon courage aux parents pour avancer dans cette nébuleuse ou dans cette jungle. Mais ne restez pas seul, c'est peut-être un peu ce qu'il faut retenir. Confiance, comme on dit. Merci à tous. Merci donc pour vos témoignages et pour les institutions que vous représentez. Je rappelle le titre de l'ouvrage de Stanislas Morel, La médicalisation de l'échec, paru aux éditions La Dispute. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.